On continue la petite étude sur la question de porter du fruit. On apprend à connaître quel est le travail de Dieu pour qu'on arrive à porter du fruit. Mais on a vu aussi la semaine passée qu'il y avait un travail de chacun de nous pour porter du fruit. C'est pas juste Dieu qui va faire l'ouvrage. Nous aussi, on a de l'ouvrage à faire. Puis on a besoin d'apprendre ces choses parce qu'il est important qu'on en porte du fruit. On a vu l'importance de porter du fruit, puis de persévérer aussi. Puis si jamais vous voulez reviser ces messages-là, ils sont tous sur Internet, vous pouvez aller les réécouter, je vous encourage à le faire. Moi-même, je le fais, d'écouter mes prêches, ou d'écouter les prêches de l'Église, ou d'écouter des prêches de d'autres églises, puis ça fait du bien. Ça nous maintient dans la connaissance, ça nous fait grandir dans la connaissance de Dieu, ça nous maintient dans la foi, ça nous maintient dans les visions de qu'est-ce qu'on a à faire pour Dieu. Sinon, c'est tellement facile de se refroidir, puis de se laisser aller, puis de vivre au naturel comme l'homme humain naturel. Il faut demeurer dans notre communion avec le Seigneur, parce qu'on a vu aussi qu'il est impossible qu'on porte du fruit si on ne demeure pas connecté à Jésus. C'est quand on est connecté à lui que lui, il va agir dans nos vies, puis que là, on va en porter du fruit. Ce soir, on va voir le sujet qui est en cours au niveau des fruits. Que veut dire la Bible par porter du fruit? Quels sont les différents types de fruits qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament? Parce que dire qu'on porte du fruit ou qu'on porte pas de fruit, c'est une chose, mais savoir c'est quoi qui peut être des fruits, qu'est-ce que la Bible appelle des fruits. Première chose, comme quand j'ai dit tantôt, il n'y a rien qui peut se faire sans que ce soit Jésus qui vienne la faire. Puis une fois qu'on a laissé rentrer Jésus dans notre vie, c'est là qu'on commence à porter du fruit. Il y a un verset qu'on va aller voir dans Colossiens 1:6. Ça nous dit, ça, j'aimerais ça, si jamais ça vous dit, que les prochains coups, vous amenez vos Bibles pour ceux qui les ont pas, puis que vous fouillez en même temps, parce que ça l'aide, ça a plusieurs buts. Premièrement, à connaître les livres de la Bible, où ce qu'ils sont écrits. Après ça, vous voulez parler à quelqu'un, où c'est que c'est écrit Corinthiens? Tu sors ta Bible, 1 Corinthiens, là tu sais que tu veux y parler de telle affaire, 1 Corinthiens chapitre 5 dit ça, là tu peux y présenter. Ça nous apprend à étudier. Parce que juste écouter, t'entends dans tes oreilles, t'en gardes une certaine quantité dans ta mémoire. Si tu lis en même temps que t'écoutes, t'en gardes une plus grande partie dans ta mémoire. Puis si en plus tu l'écrirais, tu en auras encore plus de pourcentage. L'écoute passive, c'est bon, mais à l'école, le mieux, c'est de prendre des notes en écoutant puis lisant ce qui est écrit au tableau. Là, c'est plus facile à retenir après. Il y en a qui peuvent témoigner de l'efficacité de cette méthode. Fait que je vous encourage à emmener votre Bible. Puis là, si je dis Colossiens 1:6, bien, vous savez pas où ce que c'est. Vous allez lire dans la table des matières, vous cherchez, puis là, vous allez le trouver, vous allez le lire en même temps. Ce qu'on va voir là, en commençant, que le Saint-Esprit il est répandu dans le monde depuis que Jésus-Christ est venu. Puis il agit à travers les croyants. Puis il y a des fruits qui sortent partout, pas juste à Jérusalem. On est 2000 ans plus tard. Puis il y a des fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'œuvre de Jésus-Christ sont encore 2000 ans plus tard, à l'autre bout de la planète, c'est-à-dire ici à Beauharnois. Le Saint-Esprit agit dans des personnes, puis il y a du monde qui porte du fruit. C'est extrêmement, pour moi, je trouve ça extraordinaire. C'est grandiose de voir l'œuvre de Dieu, comment est-ce qu'elle est répandue sur la planète. Quand tu penses à ça, mettons le dimanche, on loue le Seigneur ici, puis au Nouveau-Brunswick, une heure plus tard, il y a du monde qui loue le Seigneur, une heure plus tard, il y a du monde partout sur la planète, mettons, le dimanche, qui va louer le Seigneur. Fait que à semaine longue, il y a du monde sur la planète, tout le tour de la planète, à toutes les heures du jour, qui loue le Seigneur, puis qui a dit merci Seigneur, il parle du Seigneur. La gloire de Dieu se manifeste partout sur la terre. Puis c'est ça qui est du fruit répandu. Le nom de Dieu est proclamé, des louanges à Dieu, etc. Ça nous dit, dans Colossiens 1:6, que que Jésus, le Dieu, le Saint-Esprit, est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, puis il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit, Dieu, il est dans le monde entier, puis il porte des fruits partout. La planète, la terre est pleine de sa gloire. C'est quoi sa gloire à Dieu? Mais c'est des différentes choses qu'on va voir ce soir. Des fruits que Dieu fait à travers la planète, à travers les croyants. Puis même 2000 ans plus tard, il y a encore des fruits à travers la planète, des gens qui glorifient Dieu puis qui ont du fruit pour Dieu. Dieu, il peut profiter des belles choses, de quelques fruits à travers la planète. Parce que, je dis quelques, parce que le pourcentage de personnes qui connaissent Dieu puis qui marchent en communion avec Dieu sont rares comparativement à l'ensemble du monde qui vivent sans Dieu puis qui veulent pas le connaître, Dieu. Nous, on l'a reçu, on l'a accepté comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Dieu est entré dans nous par son Saint-Esprit, puis il a commencé un œuvre à nous changer. Puis là, il commence à faire des choses dans nos vies pour nous amener à ce qu'on porte du fruit. Puis on va en porter d'autres. Les fruits, il y a différentes sortes de fruits, c'est ça que je vais regarder ce soir. Un entre autres qu'on voit dans Galates 5, verset 22. Là, on va voir les fruits de l'Esprit. L'Esprit Saint, le fait que c'est rentré dans notre vie, il y a des fruits qu'il a commencé à faire. Automatiquement, quand on a commencé, il a rentré dans notre vie, il a commencé à nous changer. Nous, on demande pardon quand on réalise qu'on ne marche pas dans ces fruits-là. Mais le but, un des buts que le Saint-Esprit veut nous amener, ça nous parle du fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Ça nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est des dons, c'est des fruits que le Saint-Esprit veut nous amener. Autrement dit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on grandit dans le Seigneur, on grandit, on devient plus mature. On n'est pas des. Quand t'es nouveau-né dans le Seigneur, t'es un nouveau-né, t'es un bébé dans le Seigneur. Tu grandis. Le but, c'est d'arriver à être un homme de Dieu ou une femme de Dieu. S'il y a la stature d'un homme comme Jésus. Fait que là, il veut nous amener à l'intérieur de nous à agir de différentes façons. Puis ces différentes façons-là, c'est qu'on soit capable de marcher dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté. Là, je pourrais faire une prêche sur chacun de ces sujets-là, mais c'est juste un survol que je veux faire. Autrement dit, puis là, ça finit avec la maîtrise de soi. Hein, la maîtrise de soi, être capable de se maîtriser. Ça, on a tous le besoin. Ma femme pourra vous dire que j'en ai besoin. Mais moi, je peux dire qu'elle en a besoin. C'est quand tu connais une personne plus intimement, tu peux le dire que l'autre en a besoin. Mais on vise pas les autres. On se regarde soi-même. On est capable de se le dire nous-mêmes. On a besoin que l'Esprit Saint nous donne la maîtrise de nous-mêmes, qu'il nous donne de l'amour, de la joie, de la paix. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà. Quand tu te convertis, tu te sens en paix. Tu ne sens plus le fardeau de tes péchés. Mais ça, il te l'a déjà donné, cette paix-là. Tu la maintiens. Si tu perds cette paix-là, cherche ce que tu as fait pour la perdre, faut que tu demandes pardon à Dieu, parce que tu peux te maintenir à vivre dans sa paix, dans sa joie. Quand on loue le Seigneur, qu'on est rempli de sa joie, c'est les fruits de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Puis si on apprend à demeurer connecté avec le Saint-Esprit, tu vas le vivre tout le temps, ça. D'être heureux en dedans de toi, d'être en paix, d'être dans la joie, dans l'amour, d'aimer ton prochain, puis être bon, puis patient, puis marcher dans la foi, puis être fidèle, c'est la fidélité, puis la douceur, puis etc. Le Saint-Esprit veut nous amener à ce qu'on porte ces fruits-là. Quand Dieu nous regarde, c'est agréable pour lui, c'est comme des fruits qu'il mangera de nous. Il est heureux de nous voir aller. Ça, c'est un aspect des fruits. Une autre espèce de fruit que la Bible nous parle dans un autre verset, c'est le fruit qui découle de la marche dans la lumière. Dans Éphésiens 5:9, ça nous dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Qu'est-ce que le fruit de la lumière? Premièrement, il faut savoir qui est la lumière du monde. C'est Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui est venu nous montrer le chemin. Tout ce que Jésus a fait, c'est juste. Tout ce que Jésus a fait, c'est bon. Tout ce que Jésus a fait, c'est la vérité. C'est le chemin. Puis là, après ça, quand tu deviens son disciple, il rentre par le Saint-Esprit, il rentre dans ta vie. Puis là, c'est rendu, nous sommes la lumière du monde. Fait que quand tu marches en contact avec le Seigneur, tu es une lumière dans ce monde. Puis si tu commences à vivre comme Jésus vivait, tu vas être comme Jésus, mais tu vas dégager la même chose que Jésus dégageait. Ce que tu vas faire, les choses que tu vas faire, ça va être, tu vas faire des bonnes affaires dans ta vie, tu vas être juste, puis tu vas marcher dans la vérité. Jésus était comme ça, puis nous aussi, c'est un fruit. La Bible nous dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ces choses-là étant en Jésus, puis c'est en nous aussi, en autant qu'on laisse le Saint-Esprit venir le faire. Si on ne prend pas de temps pour être en contact avec le Seigneur, on ne vivra pas ce fruit-là. Voyez-vous? Comme on l'a déjà dit, Jésus, c'est le cep, puis nous autres, on est les branches. Il faut que sa sève coule en nous. C'est quoi sa sève? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut venir produire le fruit de l'Esprit. Il veut aussi nous faire vivre dans la marche, dans la lumière, puis qu'on vive d'une manière qui plaît à Dieu, puis que les gens aussi vont aimer. Une autre sorte de fruit qui découle de ce qu'on reçoit de Dieu, c'est qu'est-ce qui... Les fruits qui sortent à cause de la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu va nous donner. Il a commencé à nous la donner, mais plus qu'on apprend à connaître Dieu, plus qu'on apprend à connaître, on va le voir aussi dans sa parole, mais connaître Dieu, Dieu nous donne sa sagesse quand on connaît Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle sa pensée, la pensée de Dieu. Ça fait qu'on va être plein de bons fruits. Si on voit ça... dans Jacques 3, le verset 17 et 18, ça nous dit, la sagesse d'en haut, parce que la Bible, je l'ai déjà prêché, il y a la sagesse d'en haut, puis il y a la sagesse humaine. La sagesse humaine, dans Jacques, ça dit, c'est une sagesse qui est charnelle, puis est diabolique. Les hommes, dans la sagesse humaine, n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Pour arriver à comprendre Dieu, puis à comprendre les choses de Dieu, il faut que tu aies la sagesse de Dieu. C'est complètement différent d'avec la sagesse humaine. La sagesse humaine t'éloigne de Dieu. Ça te fait penser seulement qu'avec un raisonnement des choses de ce monde. Tandis que quand tu arrives avec la sagesse de Dieu et qu'il te donne sa sagesse, tu vas être capable de comprendre les choses avec la pensée de Dieu. Mais quand on est venu à Jésus-Christ, Dieu, par son Saint-Esprit, il a commencé à nous communiquer sa sagesse. On apprend des choses sur Dieu. Puis il nous aide dans nos décisions, dans nos choses. Je te dis pas qu'on est parfait en commençant, mais plus qu'on vieillit dans le Seigneur, plus qu'on apprend des choses. Ça vient de ce qu'on s'attend de recevoir. Est-ce qu'on demande à Dieu de nous éclairer dans nos décisions? Mais quand on lui demande des affaires, il le fait. Puis s'il le fait, il va nous aider à prendre des décisions éclairées, des décisions avec sa pensée à lui, et non pas avec nos pensées humaines. Dans la sagesse, dans Jacques, ça nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Quand tu veux vivre dans la sagesse de Dieu, tu n'es pas un hypocrite, tu n'es pas un visage à deux faces, comme qu'on dirait en français. On va être pacifique, on ne cherche pas le trouble avec le monde. On est pur dans ce qu'on fait, dans nos pensées, on veut se purifier, dans nos paroles. On est conciliant, on est plein de miséricorde, on a pitié des gens, on veut aider les gens. Ça fait partie de ce qui sort de bon, de la sagesse d'en haut. Ça nous dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Fait que la sagesse d'en haut nous amène à vivre dans des bons fruits. Là, ça les énumère. Là, on pourra faire, comme je vous l'ai dit tantôt, une étude sur chacun des points. Mais ça, on finira plus. Peut-être qu'un jour, on va y arriver. Mais pour le moment, c'est juste un survol des différentes manières de ce que Dieu voit comme fruit. Qu'est-ce qu'il considère qu'est un fruit? Mais si on cherche à marcher dans la sagesse de Dieu, puis vous allez voir Pierre, dimanche, il va nous parler encore de la sagesse de Dieu. Mais ça nous apprend à porter plus de fruits pour Dieu, parce qu'une fois que tu comprends plus les choses de Dieu, puis la sagesse de Dieu, mais tu vas vouloir vivre comme ça, puis Dieu trouve ça agréable, c'est un fruit pour lui. Une autre sorte de fruit, ça nous parle, dans Colossiens 1:10, c'est un fruit qui découle par la connaissance de la parole de Dieu, la Bible. C'est pour ça qu'il est important de la connaître, parce que premièrement, la Bible, c'est une nourriture. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de se fortifier dans le Seigneur. On apprend à discerner dans la parole de Dieu sa volonté. On apprend à discerner ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On apprend à savoir quel est le chemin dans lequel on doit marcher. Puis il est important de s'en nourrir. Mais dans Colossiens 1:10, ça nous dit que pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Pour arriver à être entièrement agréable, là, puis porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croître par la connaissance de Dieu. Mais dans ce verset-là, c'est en train de nous dire que tu vas grandir par la connaissance de Dieu. Où est-ce que je vais aller chercher sa connaissance? Dans la Bible. En lisant, tout simplement, en méditant, en réfléchissant dans la Bible, puis où est-ce que aussi on peut trouver des enseignements de la Bible, c'est dans les réunions, on apprend des choses, il y a des enseignements, des explications, puis ça nous aide on est en train de comme bâtir notre connaissance, puis les briques se rajoutent. Chaque fois qu'on a des révélations, c'est comme le mur est en train de monter, notre connaissance augmente. On apprend à connaître Dieu, à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, puis ça nous aide dans notre marche. Puis c'est à cause qu'on grandit dans la connaissance qu'on va porter des fruits de toutes sortes. Parce qu'on le sait c'est quoi que Dieu aime. Puis là, si on veut le mettre en pratique, on va porter du fruit. Si on néglige, de lire la Bible, on oublie même ce qu'on a appris. Puis si on n'est plus intéressé d'aller l'apprendre, on ne va même plus dans les réunions, mais notre connaissance, elle rétrograde, puis on redevient tiède comme ou froid, puis on abandonne le Seigneur. Puis c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont abandonné. Mais Dieu veut pas qu'on abandonne, il veut qu'on se garde à être bouillant, à vouloir grandir dans le Seigneur, à vouloir qu'on apprenne la connaissance de la parole, qu'on marche dans la sagesse de Dieu, qu'on demeure dans la lumière, qu'on garde notre communion avec le Saint-Esprit. Là, si on est dans ce chemin-là, on va en avoir plein de fruits que le Seigneur va faire lui-même à travers de nous. Un autre beau fruit que la parole de Dieu nous parle, le fruit de la louange qui provient d'être un adorateur. Parce que il y a un verset que Jésus nous a dit que le Père se cherche des adorateurs. Qu'est-ce que ça fait un adorateur?
Ça l'adore.
Ça l'adore. Ça veut dire quoi adorer? Le vrai sens du mot au premier degré. Le mot adorer veut dire de se prosterner devant Dieu, de se mettre à genoux devant lui. C'est ça le vrai sens du mot. Mais après ça, Jésus a dit, lui, Dieu se cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité, que dans leur cœur, ils sont vraiment en train d'être à genoux devant Dieu. On peut être à genoux là toute la journée avec nos ouvres à genoux, puis pas être à genoux dans notre tête, de pas vouloir obéir à Dieu, de pas vouloir se soumettre, de pas vouloir faire sa volonté. Pourquoi? Parce qu'on est des rebelles. C'est dans la nature humaine. Si vous me dites que vous n'êtes pas rebelle, que vous n'avez jamais été rebelle, laissez-moi, permettez-moi d'en douter, parce que je ne connais pas une seule personne qui n'a pas un petit esprit de rébellion en lui. On en a tous. On a travaillé avec ça. Pour se ramollir, pour en revêtir des sentiments modestes, l'humilité, mais pour apprendre à se mettre à genoux devant Dieu. On peut le faire dans notre corps, mais être aussi à genoux dans notre esprit, à être prête. Puis le sens du mot adorer, là, on veut élever le Seigneur, on veut le glorifier. Fait que la louange, ça fait partie de l'adoration qu'on peut offrir à Dieu. On se prosterne, on se met à genoux dans notre esprit, puis on veut vraiment lui chanter des chants. Quand on les chante, les chants, on chante son nom. On chante ses paroles, la parole de Dieu. On chante ses louanges. On lui leur remercie. On fait des actions de grâce. Fait qu'on laisse sortir de notre bouche en pensant à ce qu'on fait. Parce qu'on peut chanter juste pour chanter. On a l'acétate. On chante le chant. Puis il n'y a même pas une parole qui est rentrée dans notre pensée. On a juste chanté pour chanter. Mais on peut chanter en pensant à Dieu, puis là, on y offre ces chants-là. On pense réellement à lui offrir, puis si ça dit « Je t'aime, Seigneur », bien, dans notre tête, on le dit qu'on l'aime, le Seigneur. On lui parle, on est connecté par notre esprit, puis on pense à qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, d'être un adorateur en esprit et en vérité. Dans le Hébreu 13:15, pour parler que la louange, là, c'est un fruit à Dieu. Quelqu'un qui loue Dieu, là, sincèrement, ça fait plaisir à Dieu, puis c'est un fruit à Dieu. Dans Hébreux 13:15, ça dit « Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Fait qu'on peut louer le Seigneur par des louanges à journée longue, en confessant de notre bouche, en y pensant, parce que comme j'ai dit, si on n'est pas connecté, on n'est pas invalant. Pas juste notre bouche. On pense, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ton pardon, merci Seigneur pour ce que tu nous donnes, merci pour le travail, merci pour la santé. Puis là, on y donne des louanges, on a des actions de grâce. On chante des chants, c'est des louanges, on confesse son nom, on prononce le nom de Jésus. Puis là, Jésus, c'est le plus beau nom. Bon, on est en train de confesser son nom. Ça, c'est un fruit que Dieu aime. C'est des fruits qui devraient être tous les jours dans notre vie. Combien de fois qu'il faut louer le Seigneur de notre bouche? Quand la Bible parle de la louange, de louer Dieu sans cesse. Il y a un verset qui dit qu'il loue, de louer Dieu sans cesse. Il y a un autre verset qui dit de prier Dieu sans cesse. À une autre place, ça nous dit même de méditer la parole de Dieu sans cesse. Fait que, on peut le faire à journée longue, jour et nuit, tant qu'on travaille, quand on est à l'église, oui, mais aussi quand on sort de l'église, on est en char, on peut parler de Dieu, on peut chanter, on peut prier. On est entre frères et sœurs, on peut le faire. Puis ça, c'est des fruits pour Dieu. Dieu nous regarde, puis il est content de nous voir. Amen.
Amen.
Un autre fruit qui peut découler, c'est quand on aide les autres qui sont dans le besoin. Pour Dieu, il trouve que c'est un fruit. Dans Tite 3:14, ça nous dit, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Tu sais, faut que tout le monde embarque dans ce chemin-là d'être un gars qui rend des services, qui est capable d'aider les autres. Parce qu'on porte du fruit quand on fait ça, c'est ça que le verset est en train de nous dire. Il faut qu'on apprenne, ça nous dit dans ce verset-là, il faut qu'on apprenne à pratiquer des bonnes œuvres. Pourquoi que ça nous dit ça? Parce que c'est pas automatique pour tout le monde d'être prêt à rendre des services. Il y en a qui ont plus ce don-là, là, sont déjà prêts à être, sont déjà capables de le faire, d'être au service de tout le monde sans arrêt. Mais il y en a d'autres, il faut qu'ils apprennent. Puis des services, il y en a un qui t'appelle, il a besoin pressant, on va donner un coup de main, on prête nos affaires, on aide ce qu'on peut, quand on peut financièrement, ou on aide en encourageant avec la parole de Dieu, on aide des services, quelqu'un déménage, on va lui donner un coup de main. Toutes les méthodes sont bonnes. Quand tu es en train d'aider, tu es en train de porter du fruit pour Dieu, si tu le fais pour Dieu. Fait qu'il faut apprendre à être au service de Dieu et à pratiquer ces bonnes œuvres-là que Dieu a mis devant nous. N'oublions pas que c'est Dieu. On va se dire, ouais, mais c'est l'autre qui déménage. Oui, mais c'est Dieu qui a permis que tu le connaisses, puis que Dieu qui a permis que cette personne-là déménage devant tu le connais, là, il déménage là. Va lui donner un coup de main. Ça fait partie des œuvres. Si t'es pas capable, t'es pas capable. Mais si t'es capable, pourquoi pas? On apprend à servir Dieu en rendant des services. Une autre manière de porter du fruit devant Dieu, mais celle-là, j'en ai parlé un peu la semaine passée, mais c'est aïe, celle-là. Dans Hébreux 12, 11, un fruit que la Bible elle appelle que c'est un fruit qui découle de l'acceptation des réprimandes de Dieu. Là, c'est dur à catcher parce que d'habitude, une réprimande, c'est pas un fruit, ça fait mal. Tu t'es fait chicaner. Tu regardes un parent qui chicane l'enfant. C'est rare que tu aies l'enfant se réjouir d'avoir été chicané. Il pense même pas à vouloir de voir quelque chose de bon dans la punition. Mais plus tard, quand il a vieilli, il va se rappeler de sa punition, puis il va dire, mon père avait bien fait de me punir, parce que de cette fois-là, j'exagérais, puis j'ai appris quelque chose en me faisant punir. Ça a un fruit, la punition. Celui qui la donne, la punition, il sait que l'autre a besoin, puis il donne la punition, puis l'autre, mais qu'il vieillisse, il va réaliser que c'était correct. Mais Dieu nous punit des fois. Je te dis pas qu'il le fait régulièrement, qu'il le fait tous les jours, mais des fois, ça peut être des punitions, puis il faut être capable d'accepter les choses qui vont mal dans notre vie comme étant une bénédiction. Il faut apprendre à trouver pourquoi qu'on vit ces choses-là, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, puis tu es appelé selon son plan, mais ta vie est pas au hasard, puis ce qui t'arrive, Dieu s'en sert pour ton bien. C'est pas toujours une punition quand ça va mal, mais ça peut être des affaires pour nous parler, puis il faut apprendre dans tout cela. Il faut écouter. Il faut apprendre c'est quoi le but de Dieu. Puis il en parle justement que Dieu peut punir, puis ça dit dans Hébreux 12, 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Comme je disais tantôt, l'enfant, il comprend pas pourquoi il se fait chicaner, mais il a accepté la réprimande, il n'a pas eu le choix. Mais quand il va vieillir plus tard, mais qu'il comprenne les affaires, il va dire qu'on avait raison. Il y en a qui l'admettront jamais, là, qui t'as jamais eu raison de les chicaner, même si c'était bon, mais au moins, il fallait les corriger. Mais s'ils ont de la sagesse, puis ils ont de l'intelligence, puis ils pensent en bien et non pas en mal, ils vont dire, t'avais raison. Puis on peut pas laisser un enfant faire tout ce qu'il veut, puis même s'il tourne en méchanceté, à un moment donné, faut qu'il mette un arrêt. Puis ça fait partie de la correction. Mais nous aussi, ça peut arriver que Dieu le fait. Puis qu'est-ce qui nous arrive? Faut analyser ce qui nous arrive. Puis il faut être capable de dire, Seigneur, c'est vrai que j'étais comme ça. Puis on apprend. Puis on grandit. Ça, Dieu il appelle ça du fruit, un fruit paisible de justice. Fait que je vous souhaite pas de vous faire chicaner. Un autre fruit qui découle de nous, là, c'est un fruit que Dieu veut amener dans notre vie, puis ça découle de notre délivrance du péché. Parce que quand on, comme j'ai dit tantôt, le Seigneur est rentré dans notre vie quand on s'est converti, puis le Saint-Esprit veut nous délivrer, nous changer, nous transformer. Mais pour qu'il nous délivre, ça veut dire qu'il veut nous amener un but comme fruit. C'est ce que Romains 6, le verset 22, ça nous dit. Mais maintenant, étant affranchis du péché, on est délivré du péché, puis Dieu va nous en délivrer complètement. On est devenus des esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit, est-ce quelqu'un qui le sait? Qu'est-ce qu'on a comme fruit quand on est affranchi du péché et qu'on est devenu esclave de Dieu? On a pour fruit la sainteté et pour fin de vie, la vie éternelle. Dieu nous regarde, il a commencé l'œuvre à nous délivrer du péché. Qu'est-ce qu'on a pour fruit dans notre vie? La sainteté. Ça veut dire que Dieu veut changer nos vies pour qu'on arrive à être saints comme Jésus est saint. C'est ça qui est le but, d'être un homme dans le Seigneur, un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui est à la stature de Jésus. Fait qu'on a comme fruit la sainteté. Fait que quand Dieu nous délivre, il veut nous amener à être saint. Puis c'est un fruit quand il nous voit aller. Il voit qu'on était, qu'est-ce que Jésus a dit pour qu'on porte, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il était pour faire pour qu'on porte encore plus de fruits? Nous émonder. Il dit, c'est comme une branche de la vigne, puis il y a des raisins qui commencent à pousser. Jésus dit, tout serment qui est en moi et qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte encore plus de fruits. Ça, émonder, ça veut dire quoi?
Couper les branches qui sont pas bonnes.
Couper les branches inutiles. Fait que quand il nous parle, qu'il a commencé, il nous a affranchis du péché, on est devenus des esclaves de Dieu, on a pour fruit la sainteté. Ça veut dire qu'il va nous émonder de tous les péchés qu'on a dans notre vie, pour que notre vie soit de plus en plus pleine de fruits. On veut-tu s'en sortir? On veut-tu changer?
Oui.
On veut-tu que le Seigneur fasse l'œuvre dans nous? Puis il va la faire en autant qu'on accepte d'être émondé. Savez-vous quelle méthode qu'il utilise pour nous émonder? Il commence par nous le montrer. Quand tu t'aperçois, tu y penses, là, j'aurais pas dû dire ça. J'ai parlé, j'étais bête ou j'ai dit des mauvaises paroles ou j'ai n'importe quel péché.
Quand tu réalises, il est démondé.
Non, il commence par te le montrer.
Là, c'est de mettre en pratique ce qu'il te montre.
Ma première chose à faire quand il te le montre, c'est quoi qu'il faut que tu fasses?
De reconnaître, de l'accepter.
Faut que
ça leur est montré, puis ils vont se rebeller.
C'est ça. Fait que quand tu l'admets pas, tu demandes pas pardon, puis tu changes pas. Tu gardes la même affaire. S'il te montre des affaires, là, puis tu y penses, puis des fois, tu peux y penser souvent, c'est parce qu'il est en train de te parler, là, tu y penses. Là, faut tirer, dise, oui, c'est vrai. Je l'admets, je demande pardon, puis là, je te demande de m'aider. Je te demande de m'émonder, de l'enlever de ma vie. Puis il va le faire. C'est de même que ça, point par point, on va changer. Mais il s'agit d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui nous vient dans notre pensée? On parle à Dieu, on pense à Dieu, puis là, on peut voir qu'on est une chose qu'automatiquement, quand on est en train de la faire, on répond trop brusque, on dit des bêtises, puis là, ça nous sonne dans la tête, toi. C'est vrai, wow. Là, tu t'en rends compte. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'en rends compte? Mais tu l'avoues, si tu te caches, voyons donc, là, tu charges des excuses pour abrier, ça change rien. Mais si tu dis, c'est vrai, je suis de même, Seigneur, pardonne-moi, puis vient m'émonder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enlever, les affaires. Ça sera pas long dans votre vie que ça sera plus là. Puis après ça, faut que tu veilles tout le temps parce qu'on a des points faibles. C'est qui va venir essayer de nous tenter? Ouais. Fait que des occasions, après ça, ils peuvent en revenir pour qu'on retombe dans les affaires. Mais quand Dieu t'a délivré, tu vas voir la chose arriver, puis tu vas être capable de dire non. Avant, tu n'aurais pas été capable de dire non, t'embarquais automatiquement. Mais quand tu es démondé, tu y vois les choses, tu es capable de dire non, puis tu n'embarques plus là-dedans. Fait que si des affaires, mettons, des obstinations qui tournent en chicane, à un moment donné, tu as demandé au Seigneur de te libérer de ça, il t'a immondé, tu vas revoir d'autres occasions de tomber en chicane, puis tu vas être capable de dire non. Tu n'embarqueras pas. Puis tu vas lui dire, moi, je n'embarque plus là-dedans. Mais tous les points de notre sanctification, c'est la même affaire. Puis quand Dieu voit qu'on accepte d'être changé, puis qu'on change sur plusieurs affaires, c'est du fruit pour Dieu, ça. Il considère que c'est du fruit. Fait que continuons à travailler sur nos personnes. On a encore de l'ouvrage, je le sais. Puis le Seigneur le sait aussi. Un dernier point pour l'évangélisation, qui est du fruit, c'est l'évangélisation, dans l'évangélisation. Quand les âmes viennent au Seigneur, chaque nouvelle brebis qui vient au Seigneur, c'est une bénédiction pour Dieu. Dieu, il dit, dans un des versets, Jésus a dit ça, il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Chaque fois qu'une nouvelle brebis qui se rajoute, il est porté dans le ciel, ils sont heureux parce qu'il y a un âme de plus qui est sauvé. Puis Paul, lui, quand il a parlé dans Romains 1, 13, et Paul, il dit, « Je veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. » Lui, là, Paul, là, c'était sauver des âmes, c'était sa spécialité. Fait que quand il allait quelque part, il parlait de Jésus tout partout pour essayer d'amener les âmes à Jésus. Il essayait de ramasser d'autres fruits. Fait que pour Dieu, chaque personne qui se rajoute, c'est un fruit de plus. Fait que travaillons à l'évangélisation, puis on va en avoir beaucoup de fruits dans ce sens-là. En réalité, là, j'ai fait comme un survol rapide des différentes manières que Dieu appelle ça du fruit. Portons du fruit, frères et sœurs. Persévérons dans ce chemin-là, puis Dieu va être heureux parce qu'on a été sauvés pour qu'on en porte beaucoup de fruits. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée, tous les exemples de fruits qu'on peut porter dans nos vies. Je te remercie parce que ça nous édifie, ça nous fortifie, puis en même temps, ça nous donne une vision de ce que tu t'attends pour nous. Que notre vie puisse être pleine de fruits, Seigneur, produit par ton Saint-Esprit, produit par ta parole, produit par ta sagesse d'en haut, puis dans nos vies, avec les louanges, avec le service qu'on peut faire, avec le travail sur notre sanctification, avec notre recherche de répandre ta parole, puis de vouloir des âmes sauvées. Seigneur, porte beaucoup de fruits dans nos vies. Conduis-nous dans ce chemin-là, puis qu'on puisse vraiment être des vignes qui a du fruit en abondance. Je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.